deuxième partie de notre dossier consacré à l'agriculture biologique. Et là, donc la dernière fois, on s'était un petit peu posé des questions, on va dire, un peu basiques, mais pas tant que ça, avec nos deux invités, Manon Cassagne, chargée de développement au Gablec, et Stefano, maraîcher à Chitney, la ferme de la Touche. Moi, je voudrais en introduction vous lire un petit texte de l'écrivain américain Wendell Berry qui définit ce qu'est à ses yeux une ferme biologique. Une ferme biologique, à proprement parler, n'est pas celle qui utilise certaines méthodes et substances et évite d'autres. C'est une ferme dont la structure imite la structure d'un système naturel qui a l'intégrité, l'indépendance et la dépendance bénigne d'un organisme. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette citation ? On parle de système, on parle de méthode, on parle des deux. Stéphane ?
Oui, je rejoins tout à fait les propos de ta citation. On s'inscrit dans un système global. Moi, je suis, toi, pour aller dans le même sens, j'adore le faire avec. Quand je dis le faire avec, c'est le faire avec l'humain, c'est faire avec la nature. Et pour faire avec, il faut observer, il faut essayer de comprendre, il ne faut pas se précipiter. Les trucs tout faits, les recettes toutes faites, souvent ça ne marche pas parce qu'en fait, il y a rarement d'une année sur l'autre ou d'une saison à l'autre, il n'y a jamais de duplication. Et puis, pas la même chose parce qu'on vit avec on vit tout le temps avec de l'aléatoire. Le climat est différent, l'ambiance est différente. Donc, c'est toujours ça, cette carte, on parle de mot à mot d'aujourd'hui, c'est de la résilience. C'est toujours cette capacité à s'adapter en permanence, en effet, dans nos systèmes. Tu vois, comprendre nos systèmes naturels, je pense, meilleur on va être et mieux on va essayer de copier la nature. La nature toute seule, c'est nous qui casserons tout. La nature toute seule, elle se démerde très bien, quoi. Nous, on n'est que là pour essayer de rattraper, en effet, les erreurs qu'on peut faire. Souvent, on casse et on reconstruit derrière. La nature est beaucoup plus forte que nous, quoi. On n'a qu'à s'inspirer d'elle pour essayer de bien travailler, tout simplement.
Ben non, tu voulais aller plus loin ?
Non, je pense que Stéphane a très bien résumé. De toute façon, l'agriculture biologique, ça se base sur les équilibres naturels, en fait. On a le côté système, donc, que décrivait l'auteur de ta citation, entre le lien, voilà, il y a le lien au sol, par exemple, pour les plantes, les animaux, mais il y a aussi le fait de, voilà, d'essayer de nourrir les animaux avec ce qu'on cultive sur notre ferme et d'utiliser les effluents d'élevage, donc au maximum ceux de notre ferme s'il y en a, ou d'élevage bio en tout cas proche, pour nourrir le sol, quoi. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir un système autonome.
Alors on l'imagine bien, le type de production agricole, les différents types de production agricole obligent à utiliser des techniques un peu particulières. Et on se doute bien qu'on ne fait pas pousser des légumes comme on cultive du blé ou comme on élève des animaux. Mais est-ce que malgré tout, on peut quand même trouver des similitudes dans les différentes façons de travailler dans différentes exploitations?
Le lien commun à tout ça, c'est qu'on se rend compte que plus on met de la biodiversité dans nos systèmes, et mieux ça marche. On voit bien que les systèmes de monoculture, tous les systèmes intensifs dits industriels, c'est souvent basé sur la massification, une culture ou un élevage. Et du coup, on voit bien que ça fonctionne pas. Pour que ça marche, il faut mettre du médicament, il faut mettre des artifices, il faut mettre tout un tas de trucs. Parce que tout seul, la nature, elle marche pas comme ça. La nature, par essence, elle est diversifiée. Et voilà, donc, je reviens avec le faire avec, je veux dire, et l'observation. C'est évident que ça fonctionne pas, ce système-là, si on regarde juste un tout petit peu. Alors, c'est même incompréhensible qu'il y en a qui persistent dans cette voie-là. C'est assez incroyable, d'ailleurs.
Pour en avoir discuté un peu avec Jacques Capla, il m'expliquait qu'en fait la production industrielle agricole était moins efficace que la chasse et la cueillette, par exemple. Et qu'on utilisait plus d'énergie pour produire la même quantité d'énergie. On crame plus d'essence et de produits chimiques pour produire la même quantité d'énergie alimentaire, par exemple.
Plus on fait avec, plus on s'inspire de la nature, plus ça demande de la connaissance et des compétences, en fait. Si on n'a pas de connaissance et de compétences, en effet, on va mettre de l'énergie derrière. Voilà. Donc après, c'est à chacun de choisir, quoi. Je crois aujourd'hui, dans notre monde actuel, c'est plus intéressant de remettre de la compétence et de la connaissance. On sait que l'énergie, elle a une fin, l'énergie. Voilà, je crois qu'il faut pas avoir peur de complexifier justement les systèmes. On a voulu prendre beaucoup de raccourcis, simplifier. En fait, la simplification, en fait, c'est mauvais pour la nature, c'est mauvais pour l'homme. Ça, c'est pas bon du tout, quoi.
Tu parlais de compétences et en même temps, tu nous as parlé de ta formation dans l'émission précédente sur la question de l'agronomie. Est-ce que, par exemple, aussi l'agriculture biologique ne nécessite pas aussi ça de mieux connaître les systèmes et d'avoir de développer des compétences à la fois théoriques mais qui sont applicables aussi directement sur le terrain ?
Alors, là-dessus, il faut être hyper modeste. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui. En 20 ans, là, il y a plein de systèmes. Je repars des systèmes maraîchers, mais pas que, puisqu'on voit aussi en céréales, il y a les techniques de non-culture du sol, de sol toujours couvert, etc. Il y a plein de systèmes. La science du vivant, en fin de compte, à l'après-guerre, ils ont développé la science de la chimie, c'est-à-dire simplifier les systèmes, faire en sorte qu'il y ait des rendements rapides, être efficaces à court terme, et on se rend compte que cette efficacité à court terme, le pendant et la résultante, enfin, en effet, c'est des sols qui s'appauvrissent, c'est une alimentation qui est de plus en plus pauvre, et c'est plein de trucs qui sont hyper négatifs. Donc aujourd'hui, on revisualise un peu tout ça en disant on va travailler plus sur du global, et si on est sur du global, les systèmes sont plus complexes. Et plus complexe, ça veut dire plus de formation, mais en même temps, il faut être toujours ouvert. Justement, la science du vivant, elle est en pleine évolution. Là, il y a plein de choses qu'on va découvrir et qu'on va continuer à découvrir. On parle des mycorhizes, ça c'est un peu technique, c'est des champignons qui sont dans le sol, qui naissent des systèmes forestiers, entre autres. Et à travers la mycorhisation et les bactéries qui vivent toute la vie du sol, en fin de compte, on se rend compte que c'est une histoire, une connaissance très très courte. Et on a peu d'éléments, en fait. Ça commence à se développer grâce aux technologies nouvelles. Et on arrive à voir l'invisible aujourd'hui ou à comprendre l'invisible de mieux en mieux, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de voies à ouvrir de ce côté-là, en effet, pour comprendre encore plus nos systèmes et pour être encore meilleur, pour encore mieux copier la nature. Donc oui, ça demande de la formation, mais la formation, elle est permanente. La reconversion, elle a commencé par une formation agricole, mais je dirais assez classique, même si c'était par la voie professionnelle. Mais en fin de compte, la formation, elle est tout le temps, puisque c'est évolutif et ça bouge tout le temps. Donc on a la chance de continuer à se former, nous, de par des dispositifs de formation à travers les VIVEA, à travers les fonds formation. Donc on a toutes nos formations d'hiver qui sont notamment organisées là, par le DRAB, dont j'ai parlé la dernière réunion, qui dispense tout un panel de formation autour de l'agronomie, autour des techniques de nos systèmes, autour de même des valeurs de l'ergonomie aussi, voilà, parce que c'est aussi dans nos petits systèmes, c'est hyper important, essayer de se faire un peu moins mal un peu partout. Voilà, donc la formation, ouais, c'est déterminant, bien sûr.
Et est-ce qu'il y a des pratiques professionnelles qui sont développées dans certaines filières et qui, on va dire, se propagent aux autres filières malgré les différences de production, même de façon de travailler ?
Ouais, on peut dire qu'en agriculture bio, pour le faire avec, on est un peu des précurseurs, puisqu'on a imaginé tout un tas de systèmes pour réussir à produire des produits de qualité sans artifices chimiques. Donc on a une avance, en effet, par rapport à l'agriculture conventionnelle. Donc aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle copie des pratiques qu'on a mis en place, que ce soit les systèmes mécaniques pour désherber les cultures, que ce soit l'apport d'auxiliaires pour lutter contre les insectes. Voilà, il y a plein de techniques, en effet, qui sont venues chercher dans la recherche qu'on a pu faire et les pratiques qu'on a pu faire en agriculture biologique depuis des dizaines d'années. Maintenant, la chance, c'est peut-être qu'avec d'autres moyens, parce que le problème, c'est toujours l'histoire du nombre, quoi. Avec des moyens peut-être plus importants, puisqu'il y a peut-être plus aujourd'hui d'agriculteurs qui vont s'intéresser à ces méthodes plus propres et plus respectueuses de l'environnement, peut-être qu'on va avancer peut-être un peu plus vite, parce qu'il y aura des moyens développés peut-être plus importants pour demain.
Quelques questions concernant la conversion. Est-ce que pour passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, il suffit d'arrêter la chimie et c'est tout ? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour arriver à réaliser une conversion réussie ?
Bah ça ne suffit pas de simplement arrêter les produits chimiques, hein, parce que comme l'a dit Stéphane, voilà, même s'il reste modeste, il y a quand même un nombre de compétences agronomiques, etc. à avoir, sachant qu'en plus le système en conventionnel et en bio est différent, puisqu'on va avoir beaucoup plus d'équipements de désherbage, par exemple, en grande culture. Donc il faut s'équiper, il faut savoir aussi quoi faire, à quel moment. Donc il va y avoir tout un tas de choses à apprendre. Donc, juste arrêter les produits chimiques, ça ne suffit pas. Il faut vraiment préparer la conversion. Enfin, nous, c'est ce qu'on préconise. Après, dans la réalité, il y a un peu de tout. Hein. Mais de préparer sa conversion, de voir quand on va changer notre système, de quelle manière on change. Est-ce qu'on regarde aussi au niveau des débouchés, passer plus en circuit court et peut-être valoriser certaines productions de grandes cultures. On va prendre par exemple l'exemple de David Péchard, qui n'est pas là, mais qui aurait pu parler de lui, de sa conversion et bio, donc il a fait en 10 ans, et aujourd'hui il vend des légumineuses, donc des légumes secs, des lentilles, des pois chiches, pois cassés, et qui va valoriser un circuit court. Il fait aussi de l'huile. Donc voilà, en fait, c'est toute une entreprise, un système à repenser. Parce qu'en fait, c'est vrai que la bio, souvent, ça va au-delà. On va regarder le circuit court, on va regarder de la valorisation, se diversifier. Des fois, il y a de la transformation. Donc, ça se prépare. Et il faut se faire accompagner. Donc, il y a plein de structures qui accompagnent. Il y a l'OGAB, mais il y a plein d'autres structures. Il y a les chambres d'agriculture, bien sûr. Il y a les ADR aussi. Il y a tout un tas de personnes qui peuvent entourer les agriculteurs. Et les autres agriculteurs aussi sont les meilleures ressources pour s'accompagner.
Concrètement, si en schématisant, parce qu'on se doute bien qu'il y a une certaine complexité hein, dans la conversion, mais quelles sont les grandes étapes d'un passage de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique ?
Je pense que la plus grande étape, en fait, c'est le choc culturel, et c'est la plus grande étape, c'est dans la tête, je pense, pour quelqu'un. Moi, je ne parle pas pour moi, parce que c'était évident que je ne me suis pas posé la question. C'était évident que je ne pouvais m'installer qu'en bio, mais par contre, je pense que de conventionnel passer en agriculture bio, l'étape la plus dure, en fait, elle est psychologique avant tout. Parce que comme disait Manon, il y a un historique, en effet, de l'agriculture conventionnelle. Les fermes sont souvent reprises par filiation. Donc, c'est des fois éducatif, culturel. Et changer les modes de culture, c'est une belle remise en question pour certains. Vraiment, la première étape, parce que techniquement, il y a plein de références. On peut plus dire que ça va être hasardeux, compliqué techniquement. Certes, ça demande des efforts, parce que, comme je disais, mais c'est l'agriculture conventionnelle qui s'est énormément simplifiée. C'est pas l'agriculture bio qui est plus compliquée. C'est l'autre qui s'est très simplifiée avec toutes les dérives conséquentes. Donc, l'agriculture bio, c'est juste de la vraie agriculture, en fait. On respecte le sol, donc on fait des rotations, on met de la diversité pour que ça se passe bien, tout simplement. C'est pas que c'est plus dur. Hein. C'est normal que ce soit comme ça, l'agriculture, pour moi. Puis, ça devrait être comme ça. Et c'est pas par hasard que les gros systèmes, même sur des fermes importantes, là, tu parlais de David Péchard, et il y en a d'autres, en effet, qui se reconvertissent sur des fermes assez importantes, tout de suite, le premier truc, c'est remettre de la diversité dans leur système, d'essayer justement de valoriser les différents éléments des différentes productions, et c'est acquérir de nouvelles compétences. Voilà, c'est changer du matériel, c'est sûr, on va troquer le pulvérisateur qui va mettre des produits chimiques par des hercétries, par des bineuses, mais maintenant, il y a de telles références et une telle avancée dans le nouveau matériel. On ne peut plus dire qu'il y a des impasses, c'est tout à fait faisable. En plus de ça, il y a des aides économiques pour les reconversions en bio. Donc, il n'y a aucun frein. C'est l'étape la plus importante et la première, elle n'est que psychologique. Et plus on est technique, et plus c'est facile de passer en bio. Si on casse les barrières psychologiques et qu'on a envie, d'agronomie, on a envie de comprendre notre métier, tout le monde devrait être en bio au jeu de demain. Voilà. Et pour être positif, je suis certain que dans 20 ou 30 ans, on dira, parce qu'à l'échelle humaine, ces années-là, entre l'après-guerre et maintenant, où on a tout cassé, hein, on a cassé l'environnement en très peu de temps, en quelques décennies, je pense que dans 20 ou 30 ans, on dira, mais qu'est-ce qu'ils étaient fous dans les années, entre les années 50 et les années 2000, ils ont tout pété. Aujourd'hui, on a tout reconstruit. C'est-à-dire que je pense que dans 20 ou 30 ans, tout le monde sera en bio. C'est absolument nécessaire pour notre planète, de toute façon. Et puis, c'est la base. Si on veut bien travailler en agriculture, on doit simplement bio. C'est réacquérir l'agronomie, c'est réacquérir les bonnes connaissances du vivant pour travailler avec le vivant, tout simplement.
Est-ce que, Stéphane, toi, tu peux nous raconter ton installation ? Est-ce que déjà, le terrain sur lequel tu as démarré ton exploitation, est-ce qu'il était déjà en bio ou est-ce qu'il a fallu, quelque part, le convertir à l'agriculture biologique ?
Moi, j'étais converti, je travaillais dans la tête, il s'est fait tout seul. Non, mais par contre, les terrains, alors nous, comment ça s'est passé ? Donc, je faisais un autre métier. Voilà, j'étais électronicien, je montais des systèmes d'alarme. Donc, j'ai commencé sur 3 ans, j'ai commencé par faire des formations professionnelles pour acquérir. J'ai fait un BTA, après un BTS, un certificat de spécialisation en agriculture bio. Tout ça, j'étais plutôt dans la vallée du Rhône parce qu'il y a 20 ans, il y avait peu d'agriculture bio en maraîchage dans notre région, en région centre. Donc, je me suis formé dans la région Rhône-Alpes. Et puis après, il s'agissait de s'installer. Donc voilà. Donc de tout, il se trouve qu'il y avait des terrains familiaux du côté de mon épouse qui étaient en céréales, mais qui pouvaient se rendre disponibles. Donc j'ai reconverti les terres qui, elles, par contre, étaient en conventionnelle à l'époque. J'ai mis une luzernière pendant les 2 ans où la terre s'est réenrichie et s'est renettoyée un petit peu, je dirais. Pendant ce temps-là, j'ai construit ma maison. Et puis, à l'issue de ces 2 ans, je me suis installé en maraîchage. Donc, du coup, je suis passé en bio tout de suite après ces 2 ans de reconversion que j'ai pu faire. Et la 3e année, je suis passé en bio. Comme quoi, les choses vont vite et même les changements de mentalité, ça va super vite. C'est qu'il y a 20 ans, les premiers marchés qu'on faisait pour prendre nos légumes, on notait pas que c'était en bio. C'est-à-dire, visuellement, c'était pas vendeur du tout. Il y avait un côté un peu bizarre, un peu sectaire, un peu montré du doigt. On a commencé à vendre nos produits sans dire qu'on était en bio, en fait. Ça a tout de suite bien marché parce que nos légumes ressemblaient à des vrais légumes, c'était frais, etc. Et on a commencé à mettre l'étiquette bio. On travaillait avec le réseau Biocoop un petit peu, mais par contre, sur le marché directement, on a mis l'étiquette bio que 2 ans après. Et quand on a mis l'étiquette, les gens nous ont dit « Ah, mais vous faites des produits bio. » Je dis « Oui, c'est des légumes. » C'est des légumes, mais en plus, ils sont bio. Donc là, ça a marché. Pour dire juste, ça faisait un peu peur, en fait, les légumes bio. Aujourd'hui, tout le monde veut un bout de verre, tout le monde veut un peu d'arriture bio sur son étiquette, alors qu'à l'époque, il fallait presque les cacher pour être plus vendeur. Donc ça va très vite en 20 ans. Et les changements, je pense que ça peut aller très très vite si c'est bien accompagné, si les prises de conscience maintenant sont là. Je suis vraiment très positif pour l'avenir, en fait, sur nos modes de production agricole, là, qui ne peuvent que changer. Ouais. Et après, l'installation était progressive, par contre. Voilà. Parce que le contexte professionnel était différent. Il y avait très peu de jardins à 2 hectares. En 97, on a dû s'installer à peu près les mêmes années que les jardins de Cocagne de Blois. Donc je crois que voilà, on était 2, je crois, autour de Blois à l'époque, tout simplement, sur cette taille-là, là, en 2 hectares. Donc l'installation, elle a été progressive. Moi, j'ai fait un boulot alimentaire un petit peu pendant les 2 premières années. Donc on s'est installé progressivement, on a commencé avec 1,5 hectare et puis après on a monté un peu, on a monté un peu de serre, on en a remonté d'autres, voilà, pour arriver aujourd'hui on a 4000 m² de serre et 2 hectares de légumes de plein champ, et puis c'est la taille, on ne veut pas dépasser, voilà, là, cette taille là elle nous correspond, elle correspond à ce qu'on veut faire, c'est une taille humaine, voilà, c'est le format nous convient bien.
Justement, pour aller plus loin, tu parlais de rotation, tu parlais de... Voilà. On peut peut-être rentrer justement dans le détail de comment on fait pousser des légumes depuis 20 ans sur les mêmes terres, puisqu'on se doute bien, hein, quand on extrait de la matière du sol sous la forme de légumes, on va puiser, on va avoir besoin de prendre de l'énergie du sol pour la convertir en légumes, quelque part. Comment on fait justement pour continuer à avoir... un terrain qui est exploitable.
Là, pour revenir à l'installation, là, pour revenir au début de l'histoire, c'est que si on s'est installé sur ces terrains-là, en fait, je suis tombé amoureux de la terre. C'est-à-dire, le premier truc pour moi, notre élément de base, hein, notre outil principal, nous, c'est terre. Et c'était évident pour moi, je voulais une terre avec un bon potentiel, c'est-à-dire ce qu'on appelle une terre franche, une bonne proportion de sable, d'argile, limon, avec un sous-sol. Là, il se trouve qu'ici, on a un sous-sol calcaire, il y a une petite couche d'argile entre les deux pour maintenir l'humidité, une profondeur de sol qui n'est pas folle, mais 20-30 cm. La base, en fin de compte, hein, pour produire de bons produits, des légumes ou autres, hein, c'est déjà de choisir son sol. Et on avait ce luxe-là, c'est-à-dire on pouvait choisir notre sol. Donc ça a été les deux critères, en effet, ça a été le sol qui me plaisait énormément et la proximité de Blois pour avoir un bassin de vie à côté pour pouvoir vendre en direct, parce que c'était déjà l'idée de départ. Donc après, une fois qu'on a un bon sol, en fait, il faut l'accompagner. Donc en effet, les légumes, ce sont des produits qui sont hyper gourmands. On a beaucoup d'exportations de matières, d'éléments minéraux, etc. Et j'avais un sol d'ailleurs qui était tellement puissant et tellement intéressant au départ que j'y ai trop fait confiance, où il était super sympa avec moi. Là, maintenant, ça fait 20 ans, maintenant je fais de gros apports, mais disons, je faisais des apports de matière organique sous forme de compost, hein, souvent essentiellement, mais pas suffisamment peut-être. Des sables squelettiques, par exemple, c'est clair, si on n'est pas à manger et à boire, ça marche pas. Mais on a un sol, en fait, où naturellement, il est super bien pourvu, il y a une certaine inertie, et pour se rendre compte qu'il commence à se défertiliser un peu, si je peux employer ce terme-là, ça demande un certain temps et ça se voit pas tout de suite. Quoi. Donc là, voilà, là maintenant, on a été très généreux. Là, depuis 4 ans, on lui redonne en effet beaucoup et même plus que ce qu'on a pris en faisant des gros apports de compost et de déchets verts là, depuis quelques années. En réadaptant aussi nos techniques de production, c'est on essaie de moins exporter parce que là on va rentrer de la technique, mais plus on brasse du sol et plus on a une dépense en effet On a, pour simplifier, on a une dépense énergétique du sol. Enfin, on a des éléments, on libère trop d'éléments. Voilà, on crée en fait des éléments qu'on ne devrait pas libérer. Donc, pour rejoindre un peu les approches de non-travail de sol ou limiter le travail du sol, qui génèrent en effet une surconsommation d'éléments inutiles, là, en effet, on ne laboure pas, par exemple. On ne laboure pas, on travaille qu'avec des outils à dents pour ne pas mélanger les horizons. Voilà, pour respecter la vie sur les différents horizons du sol. Et puis après, on ramène beaucoup d'éléments nutritifs en surface. Et on laisse en effet la vie du sol s'imprégner en effet de ces éléments-là. Donc en même temps, on fait une couverture du sol qui protège le sol des éléments climatiques, soit le soleil, l'eau, etc. Et du coup, on ramène de la nourriture aux éléments vivants du sol, soit des bactéries ou des vers de terre, etc. Donc je simplifie un petit peu, mais c'est pour donner une image.
Il y a aussi des besoins différents en fonction des plantes et des légumes qu'on va mettre. Je suppose qu'une racine ou une feuille ou un fruit ne va pas avoir les mêmes besoins. Est-ce que du coup on peut enchaîner sur un même parcelle plusieurs années de suite les mêmes plantations ou est-ce qu'il faut tourner quand même ?
Là, je sens ton âme de jardinier là, dans cette question.
Ouais, j'aimerais bien avoir des petits conseils pour la maison, justement.
Après, on fait des rotations. Donc, la grande théorie, c'est on fait varier les différentes familles de légumes. Et puis, on alterne aussi avec comment le légume, si c'est un légume feuille, un légume fruit, un légume racine. Donc, on fait une rotation en intégrant tous ces critères-là de façon. Et puis, même ce qui est bien, c'est d'intégrer aussi des engrais verts aussi en cours de culture. Par exemple, entre deux cultures en plein champ, par exemple, entre une culture courte, par exemple, c'est radis ou salade en début de saison. Il y a des fois, avant d'implanter un légume d'automne, on a 2 mois là, qui seraient disponibles. Donc là, on va utiliser cet espace de temps-là pour intégrer un engrais vert. Donc, un engrais vert, c'est une culture qui couvre le sol, donc qui protège le sol et qui vient attraper les éléments minéraux du sol plutôt qu'ils soient lessivés par les éléments climatiques, par l'eau en particulier, pour ramener en surface et qu'ils soient réutilisables pour la culture qui suit.
Donc c'est quoi comme plante, par exemple, que tu appelles justement des engrais verts comme ça ?
Là, en pleine saison, ça peut être du sarrasin. Après, il y a des plantes à cycle plus court. Mais après, on n'a pas besoin de faire une grosse masse. Le tout, c'est de faire une petite couverture de sol. Mais même si c'est une culture qui va rester 2 mois, elle va rester assez jeune. Hein, c'est pas grave. Ça, et puis, au moment où on va renfouir, la partie verte va relibérer de l'azote et va ramener des bactéries, justement, pour contribuer à rendre le sol vivant pour la culture qui va suivre. Et puis l'hiver, on fait des couvre-sols. L'hiver, là, par contre, toutes les cultures qui. Soit on va protéger le sol d'une façon un peu plus technique, mais qu'on peut faire aussi à l'échelle du jardin, c'est de protéger son sol avec ce qui est bien connu, c'est avec des cartons, par exemple. Et donc, on utilise des toiles hors sol, par exemple, des toiles de paillage qui sont réutilisables. Ça nous permet, c'est ce qu'on appelle l'occultation, ça permet de préparer le sol pour la culture d'après, c'est-à-dire coupe la photosynthèse en occultant. La plante qui veut germer, du coup, tout de suite, elle meurt. Donc, ça permet d'avoir des terrains propres en sortie d'hiver et ça protège le sol des effets climatiques, notamment des lessivages de l'eau, etc., ou de l'impact des gouttes d'eau sur le sol. Donc, on fait une partie comme ça, par exemple, pour des terrains qu'on va avoir besoin très tôt en sortie d'hiver. Et puis, une autre partie où on va semer des engrais verts. Donc là, c'est souvent des graminées ou des mélanges de graminées avec une légumineuse qui va fixer l'azote de l'air.
De tout ce que tu nous as raconté là, est-ce qu'il y a des choses que tu ne faisais pas il y a 20 ans et que tu fais aujourd'hui ? Est-ce que tu as fait évoluer ta pratique et comment ?
Mais j'ai fait évoluer plein de trucs. Comme je l'ai dit précédemment, je suis pas né le cul sur un tracteur. Donc il y a des fois, c'est aussi ça dessert hein, des fois, parce que des fois, on va inventer des trucs. On a des fois de bonnes idées, mais on a plein de savoir-faire qu'on peut oublier quoi. Donc j'ai mis bien 4-5 ans à trouver les bonnes solutions pour ce sol. Comme je le disais, c'est un vrai sol. Par contre, les sorties d'hiver, c'était des fois un peu compliqué parce qu'en arrachage, on veut rentrer dans les terrains très tôt pour avoir des légumes tôt, puis on fait de la vente directe, donc il nous faut des légumes tout le temps. Et au début, quand j'ai commencé, on a fait une installation progressive, donc j'avais pas suffisamment de surface de serre pour mettre sous abri, pour désaisonner un peu les légumes, pour les avoir plus tôt en début de saison. Donc, j'étais tenté de rentrer trop tôt dans les terrains en sortie d'hiver. Donc, les terrains étaient encore mouillés, étaient encore un peu compacts, etc. Donc, j'ai fait des bêtises au départ. Donc, voilà, je me suis adapté. J'ai fait du travail sur butte, par exemple. Là, maintenant, depuis quelques années, on fait des buttes semi-permanentes, qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on dresse le terrain, on fait comme des buttes qui font à peu près 20 à 30 cm de haut, qu'on dresse à l'automne ou en fin d'été, quand les terrains sont bien ressuyés, justement, quand ça se travaille bien. Soit on implante un engrais vert, soit on occulte ces parties-là. Donc ça nous fait des terrains qui sont tout prêts en sortie d'hiver. Donc ça, c'est des techniques que j'ai mis en place au fur et à mesure en comprenant mon sol.
Voilà, on comprend mieux justement, c'est ça que je voulais un petit peu montrer dans cette conversation, que c'est ce qu'on disait dans l'émission précédente, la tâche a l'air complexe, il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir. En tout cas, on n'a pas d'autres béquilles que ses compétences, que ses savoir-faire, que les échanges qu'on peut avoir avec d'autres producteurs, et que du coup, quelque part, c'est important aussi de le montrer, de le faire entendre. C'est ce que je voulais faire passer à travers cette émission.
Là, ce que je peux quand même rajouter, c'est que contrairement à là, quand même, depuis 10 ans, on a un gros appui technique, hein, beaucoup de références, beaucoup de tutos aussi sur Internet. C'est assez récent, c'est vrai que je me souviens des débuts. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est facile de devenir maraîcher, mais la personne qui veut se former correctement, qui se fait conseiller, il y a plein d'outils et de moyens pour acquérir des techniques assez facilement.
Manon, du coup, par rapport à cette question du conseil, vous, est-ce que vous sentez auprès des adhérents qu'il y a un besoin, il y a une envie de formation continue des agriculteurs adhérents ?
Il y a toujours ce besoin. Après, ce que disait Stéphane, c'est qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'offres, de formations, que ce soit en numérique ou par un bon nombre de structures. Hein. Il y a le GAB et puis toutes les autres structures de la bio ou pas de la bio d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, oui, il y a un besoin. Et nous, c'est aussi ce qu'on essaie de faire, hein, via les GAB, via les consultations, etc. De faire remonter ses besoins et ensuite de créer la formation comme elle, enfin, et qu'elle corresponde au plus près aux besoins des producteurs. Hein. C'est vraiment notre objectif. Et on n'en fait pas à l'appel, hein, des formations. En tout cas, dans les GAP, c'est plutôt biocentre, avec l'équipe de maraîchage qui va en faire beaucoup. Et là, c'est surtout les jeunes installés qui vont se former énormément. Et après, même dans les personnes qui sont installées depuis longtemps, on les retrouve aussi ponctuellement sur des formations pour creuser des sujets ou voilà, sur des côtés ergonomiques ou peut-être d'autres côtés qu'ils ont besoin de retravailler.
Et est-ce que vous avez des questions ou des sujets, on va dire, est-ce qu'il y a des modes, est-ce qu'il y a des besoins qui ont émergé récemment ou des questions, des besoins particuliers qui n'existaient pas il y a quelques années, qui justement remontent beaucoup en ce moment ?
Alors moi, je ne suis pas dans le milieu depuis tant d'années que ça, hein, pas comme Stéphane, mais je dirais que la mode là, c'est tout ce qui est non-travail du sol, hein, que ce soit en grande culture, en maraîchage, etc., ça c'est de plus en plus la mode et je dirais que c'est ça le plus gros sujet, c'est ça, le non-travail du sol. Et voilà, on est en bio, mais on va aller plus loin, quoi. Et puis le côté aussi impact carbone, énergétique, biodiversité, etc., quoi, qui est lié à tout ça.
Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré pour discuter de tout ça. C'était fort intéressant.
Merci à vous.
Voilà. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore une fois. Donc cette émission sera à la réécoute sur le site de la radio studiosf.fr, ainsi que tous les autres épisodes précédents. Merci beaucoup Manon Cassagne. Merci Stéphane No. Puis bonne continuation vous.
Merci.
Au revoir.